France Culture.
À voix nue, Ulysse Manès.
Georges Niva, écrivain esclavisant.
Épisode 2, Cap sur l'Est, vivre en russe. Georges Niva, deuxième épisode de notre conversation. Nous avons parlé de votre vie d'avant la Russie, votre jeunesse à Clermont-Ferrand, votre arrivée à Paris pour les études supérieures, votre service militaire, votre blessure. Et maintenant, si j'ose dire, mettons les pieds dans le plat et cap sur la Russie. Vous avez écrit, entre autres, un livre intitulé « Vivre en russe ». J'aimerais vous demander, Georges Niva, pour commencer, est-ce que vous rêvez en russe ?
Ça m'est arrivé et ça m'arrive de temps à autre après mon expulsion de l'Union soviétique. Ça m'arrivait très souvent. Mais maintenant, ça se fait plus rare. Bon, je parle en russe, je parle avec mon épouse en russe. Autrefois, nous parlions en russe pour ne pas être compris. Maintenant, on a tout à fait compris qu'il y avait des Russes partout et que par conséquent, ce n'était pas le russe qui pouvait nous mettre dans la clandestinité. Ce serait mieux de parler en ukrainien, mais ça, ou en slovène, mais on n'en est pas capable.
Mais vous l'apprenez, l'ukrainien.
Oui.
On en reparlera. Vous avez dit un jour au micro de France Culture, l'émission Affinités électives, que votre rêve était d'écrire un livre en français pour décrire la langue russe de l'intérieur, sa puissance, ses énigmes, sa transparence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ça, c'est véritablement très difficile et je pense que je n'arriverai pas à écrire ce livre, mais il est bon d'avoir, devant soi une borne autour de laquelle on va aller tourner, comme dans les chars romains ou grecs. C'est une langue qui fascine à l'intérieur des langues européennes. Parce que si vous voulez, moi je ne peux pas comparer avec le chinois, le japonais, je suis allé dans ces deux pays, je les aime, ou avec l'arabe que je connais par l'Algérie. Mais à l'intérieur des langues européennes, c'est celle qui vous dépayse le plus, à cause d'une syntaxe extrêmement différente. Ça, c'est une grande différence avec, disons, le polonais, que j'aime bien. J'aime la littérature polonaise. J'ai lu l'épopée de Mickiewicz, Pan Tadeusz. Je préfère la langue russe, bien que ça n'ait pas grand sens. Disons, toute langue est une sorte d'être vivant, colossal et collectif, qui parle à l'intérieur de ceux qui parlent cette langue et à l'intérieur de laquelle on est admis à entrer à partir du moment où on commence à la connaître et surtout à l'aimer. Je pense que c'est l'amour d'une langue qui fait qu'on la sent bien. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est en russe on dit « namolena ikona », c'est-à-dire une icône qui a subi ou connu beaucoup de prières. C'est celle devant laquelle des centaines de milliers de pèlerins ou de croyants sont venus s'incliner, la baiser et prier devant elle et demander son intercession. Impossible de dire ça en français, tout simplement parce qu'on n'a pas ce genre de participe passé collectif comme celui-là. Et peut-être aussi parce que nous n'avons pas d'icône que nous allons baiser.
Racontez-nous vos premiers voyages à Moscou, 56-57, puis 59-60, c'est vos deux premiers voyages. C'est Pierre Pascal qui vous envoie là-bas. Vous avez alors 21 ans.
Oui, je suis arrivé en septembre 56. Il y avait eu le 20e congrès.
Absolument. Quelques mois avant.
Ma mère m'avait acheté des bottines fourrées, une espèce de gros blouson en fourrure. On imaginait que je partais évidemment au fin fond de la Sibérie. Ouais. Et j'arrive. Je suis accueilli par un Français de Montpellier, très communiste, parce que faut aussi bien voir qu'à l'époque, le monde intellectuel français était divisé en deux. Il y avait les cathos et les bolcheviks, les cathos et les communistes. Et au lycée, par exemple, quand j'ai choisi la liberté de Kravchenko, j'avais fondé une sorte de petit club de discussion, c'était la même chose, cathos, communistes. Alors, parmi les slavisants, c'était un petit peu la même chose. Les uns y allaient par amour chrétien de la Russie, les autres parce qu'ils étaient communistes. Bien que une de mes meilleures étudiantes à Nanterre, quand j'étais à Paris 10 et enseignais à Nanterre, refusait la bourse pour y aller. Alors, je lui dis, mais enfin, c'est incompréhensible, vous êtes même communiste. Réponse, c'est bien pour ça que je ne veux pas y aller. Elle n'était pas dissidente, mais elle était clairvoyante. Ce n'était pas mon cas. Bon, je partais à l'aventure, mais j'avais été préparé par Georgi Nikitin et mes conversations rue Grégoire de Tours. Ça a été un étonnement de tous côtés. D'abord, l'odeur. Si vous voulez, l'essence, le carburant était raffiné de façon très différente. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Il y avait une odeur spécifique, très différente de celle que nous avions à Clermont-Ferrand ou à Paris. Bon, il y avait moins de trafic qu'aujourd'hui, naturellement. Dans Moscou, il y avait relativement peu de trafic. Il y avait une sorte de francophilie extraordinaire. Gérard Philippe était passé par là. Ce qui donnait une sorte, d'avantage aux jeunes gens qui venaient et on leur parlait de Gérard Philippe. Oui, ça donnait un petit avantage amoureux.
Vous me devancez, vous parlez de l'amour déjà, j'allais vous en parler dans quelques minutes, mais d'abord, peut-être grâce aussi à cette francophilie, vous rentrez dans des cercles d'intellectuels russes, et vous rencontrez une certaine Olga. Ensuite, vous rencontrerez sa fille. Quel a été cet itinéraire? Là, on est en 1956, 57, 58, c'est ça?
Non, c'est déjà l'automne 56. C'est un étudiant qui me dit « Est-ce que tu voudrais faire la connaissance d'une famille où tout le monde... » Alors, il emploie un mot. « A été assis ». Alors, Sidi Eli, en russe, a été assis, ça veut dire a été au camp. C'est du jargon. Et je ne savais pas, donc j'apprends du même coup un mot, un nouveau sens, et je vais pour la première fois dans la petite rue Potapovsky Pirulok, au sixième étage, chez Olga Sivolodovna Ivinskaya, qui est en somme l'égérie, la troisième égérie de Boris Pasternak. C'est elle qui est représentée dans le docteur Zhivago. Lara lui-même l'a dit, naturellement, comme tous les personnages, c'est une création, mais qui doit beaucoup à Olga Ivinskaya. Alors, il y a une fille, Irina, il y a un fils, Mitya, et mes relations amoureuses avec Irina ont assez vite commencé.
Vous l'avez rencontrée par sa mère?
Chez sa mère, à Peredelkino, qui est le village des écrivains, fondé par Staline, pour que les écrivains soient bien chez eux, mais bien sous sa main. Mais Olga, elle louait une maison juste à côté, à Bakovka. Et moi-même, j'ai loué une véranda chez des Kolkhoziens, à côté de Olga, mais quand même à 300 mètres. J'y allais, et le poète Boris Pasternak m'a rendu visite chez moi, là, dans cette petite véranda. Rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'était un grand honneur, mais à l'époque, je trouvais ça tout à fait normal. Et il venait avec sa chapka en fourrure noire, un peu de biais sur la tête, son air très juvénile jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et il m'a fait des confidences. Il m'a raconté des histoires sur Gorky, la baronesse Boudberg, qui avait été la maîtresse de Gorky, qui venait de lui rendre visite, ou encore sur les monologues au théâtre, parce qu'il avait traduit beaucoup de Shakespeare, comme tous les écrivains, disons, qui étaient mal vus. Il ne lui restait plus qu'à traduire. Mais c'était très bien payé, hein, relativement, en Union soviétique. Donc il avait traduit beaucoup de Shakespeare, il connaissait l'anglais, il avait traduit beaucoup de Goethe, là il connaissait à perfection l'allemand, il l'écrivait. Il avait traduit du hongrois, Peter Fee, mais il ne connaissait pas le hongrois, ça c'était le système soviétique, les traductions mot à mot, avec lesquels le poète travaillait.
Mais quelle a été la nature de votre relation avec Pasternak? Qu'est-ce qui vous a adopté parce que vous étiez l'amoureux d'Irina, sa
oui,
qui est presque
sûr,
belle-fille?
Bien sûr.
Ça l'amusait beaucoup, votre... Enfin,
oui.
Cette histoire.
Maintenant, il y a aussi eu le fait que j'ai eu beaucoup d'amitié, j'ai rencontré beaucoup d'affection en Russie.
Et vous avez lu en avant-première, le docteur Jivago.
Oui. C'était, on me l'a donné à lire tout de suite, en tapuscrit. C'est une langue qui était un peu difficile pour moi à l'époque, vraiment. Donc j'ai commencé par les poèmes de la fin, qui sont magnifiques et relativement plus simples que la poésie des années 1920. Ou 30 de Boris Pasternak.
Il était dans une influence un peu futuriste, c'est ça?
C'est-à-dire, le futurisme, c'était lui. Lui et Mayakovsky, ils étaient les deux grands poètes. Enfin, il avait une grande admiration pour Mayakovsky, et naturellement, le suicide de Mayakovsky a joué un rôle dramatique, mais pas seulement pour lui. De toute façon, les suicides du poète, de tous les poètes en Russie, ont joué un grand rôle depuis la mort d'Alexandre Pouchkine en duel, de la balle tirée par un Français, Georges Dantès. Il y a d'ailleurs un petit poème de Bulat Okudjava sur les deux Georges, Georges Dantès et le Georges que je suis.
Ah oui.
Un poème que beaucoup connaissent en Russie. Les monologues, il me disait, quand je traduisais Shakespeare, j'avais l'impression que c'était un peu un truc théâtral, ces monologues. Mais à partir de 1937, quand je me suis mis à dire moi-même des monologues, en visant le Kremlin où se trouvait le tyran, et je parlais à moi-même et je disais à moi-même ce que je ne pouvais pas dire à mon épouse, à mes enfants, à mes amis. Donc j'ai découvert que le monologue était quelque chose de naturel. Voilà une des confidences qu'il m'a données. Mais enfin, j'ai eu pas mal de conversations. Et j'ai rencontré énormément de gens, des poètes. Un poète qui était rentré de France en 1932, qui avait une peur extraordinaire que je ne sois suivi. Il habitait au quatrième, il mettait sa chaise devant la fenêtre, et regardait en bas s'il y avait la voiture de la police. Eh bien, il y avait peu de trafic hein, à l'époque. Ouais. Et en même temps, il m'écoutait parce que, voilà, ça faisait deux décennies qu'il n'avait pas vu, entendu du français, vu un jeune français en chair en os. Et puis... J'ai suivi les cours à la faculté des lettres, qu'on appelle philologie. Les cours, je suis le séminaire de l'académicien Guzzi, qui a été pour moi remarquablement, comment dire, attentif, même affectueux, on peut dire. Néanmoins, alors j'ai aussi eu des petits ennuis.
Oui, est-ce qu'il ne serait pas question d'un coup de parapluie?
Alors, il y a eu le coup de parapluie et je me suis retrouvé avec un érésipèle épouvantable.
Qu'est-ce que c'est que ce coup de parapluie? Il y en a qui préfèrent le petit coin de parapluie, mais le petit coup de parapluie, on ne connaît
Ben,
pas.
je ne sais pas, je crois que Jean-Paul II aussi a eu un coup de parapluie ou quelque chose comme ça. Solzhenitsyn avait eu un coup de parapluie. Mais l'autre épisode auquel c'est quand j'ai été convoqué avec Geneviève Constanti, notre grande amie, qui a traduit tout l'archipel du Goulag et toute la roue rouge de Solzhenitsyn, c'est vous dire que c'est une traductrice titanesque, le mot n'est pas exagéré. Et brusquement, nous sommes convoqués par le recteur Petrovski parce qu'on n'est pas content de nous.
Fainéantise, c'est ça?
Oui, on n'est pas content parce que il y a eu un article d'ailleurs dans Moscovsky Universitet, l'université de Moscou, qui disait, chers amis français, arrêtons ça. C'est-à-dire, nous ne balayons pas la chambre, nous, en ce qui me concernait, la poussière de l'an d'avant se trouve encore sur le rebord de sa fenêtre, etc. C'était signé par mon voisin et deux autres. Et évidemment, j'étais quand même stupéfait. Une bonne âme venait de m'apporter le numéro. Et puis, il arrive. Il cogne à ma porte parce qu'on est dans un bloc, on a deux chambres et puis le bloc sanitaire qui est commun. Tout ça tout petit. Il cogne à sa porte, il était grand, il venait d'Ukraine. Et il me dit, Georges, je crois que tu penses que je suis un vrai cochon. Alors nos rapports se sont rétablis, pas de problème, on l'avait forcé. Il m'a emmené d'ailleurs dans le kolkhoze de ses parents en Ukraine. C'était mon premier voyage en Ukraine,
En quelle
mais
année, ça?
donc c'est en 57, printemps 57. Mais comment fêter l'anniversaire du directeur du kolkhoze? Et ça, on était au troisième jour, ça dure toujours 3 jours. Donc tout le monde était sous jusqu'aux oreilles, ce qui fait que l'apparition d'un Français ne nous a nullement marqué. Disons, un Martien tout vert débarquant ne nous aurait pas marqué non plus.
Vous vous êtes senti pleinement intégré dans ces jeunes années russes, dans ces cercles. Vous avez commencé à... vous parliez déjà couramment russe. Je voudrais qu'on arrive bien à comprendre le jeune homme que vous êtes dans ces
J'avançais
cercles.
très rapidement en russe, ça c'est tout à fait certain. Et puis écoutez, comme j'envisageais de me marier et que j'ai été expulsé après avoir inscrit notre mariage à la mairie, j'avais déjà décidé que si Irina ne recevait pas l'autorisation de sortir, c'est moi qui resterais. Je l'avais dit à mes parents, lesquels n'approuvaient pas vraiment cette décision et se demandaient comment ça allait se terminer. Mais de toute façon, ça s'est terminé. Il y a des officiers qui sont venus me chercher chez Olga. J'ai pu aller prendre ma valise et je suis parti par le dernier avion pour Helsinki. J'étais mis dehors.
Pour quel motif vous avez été expulsé?
Non-renouvellement à temps de mon visa. C'est-à-dire, mon visa se terminait dans les 2 ou 3 jours, et puis il savait que le mariage allait être enregistré à l'OVIR, qui est l'administration qui enregistre. Bon,
Donc vous êtes
je me suis
expulsé.
retrouvé donc à Helsinki, en état tout à fait second. Je suis rentré chez mes parents à Paris, et puis j'ai annulé mon sursis militaire. Et donc je suis parti pour l'Algérie.
Et que sont devenues Irina et Olga?
Eh bien, après mon arrestation, elles ont été arrêtées. Elles ont fait 3 ans et 4 ans de camp. Moi, j'envoyais des paquets. parce qu'il y avait une bonne, une travailleuse à domicile, comme on dit en russe, Polina Yegorovna, qui jouait un grand rôle, hein, exactement comme la nounou de Pushkin, par exemple, qui est un personnage même, comment dire, fabuleux dans la mémoire russe. Alors cette Polina Yegorovna, je lui téléphonais, elle me répondait, elle me donnait l'adresse des camps, du camp où elles étaient, la mère et la fille. Et il y avait une petite institution qui s'appelait quelque chose comme OPIMEX, et j'envoyais des colis qui arrivaient.
Qu'est-ce que vous envoyez par colis ?
De quoi manger. Des produits secs pour compléter.
Et je crois qu'Irina a rencontré un poète au goulag qu'elle a épousé ensuite, c'est bien ça ?
Elle a rencontré un garçon que je connaissais déjà un tout petit peu, de la faculté d'histoire, à côté de la salle des lettres, Vadim Kozovoy. Et c'était des camps qui se jouxtaient entre hommes et femmes avec des barbelés, et il lui envoyait par-dessus des petits poèmes. Bref, quand elle est sortie, elle m'a annoncé qu'elle allait épouser, dès qu'il sortirait, Vadim Kozovoy. Bon, je passe sur l'état dans lequel j'étais, mais je suis devenu très ami avec ce Vadim, qui n'est plus là, malheureusement, dont j'ai publié des recueils par lui. C'est un peu par lui que j'ai rencontré Michaud, Char, Grac. Avec tous, j'ai eu des rapports qui ont commencé à cause de Vadim. Et ensuite, j'ai parlé avec Char, par exemple, de la poésie de Joseph Brodsky, dont ceux que je venais de traduire, je lui ai donné à lire. Et puis, au Buscla, là, l'île sur Sorgue, je suis allé voir ce qu'il en pensait, mais il n'en pensait pas du bien. Il y avait entre la poésie de Brodsky et lui une espèce d'obstacle.
Je passe un peu, vous rentrez donc à Paris de force, vous continuez les études, vous êtes assez malheureux par ce chagrin d'amour et en même temps vous continuez un parcours intellectuel, universitaire brillant. En 1962, il y aura une première onde de choc, vous découvrez l'œuvre de Solzhenitsyn et en 1965, vous rencontrez une femme, Lucie Jonac. Après la brume russe, cette décennie s'ouvre en bouquet, la décennie des années 60.
Lucile Jonac, elle avait fait du russe parce que son père avait été prisonnier pendant 4 ans en Allemagne, que les officiers se donnaient des cours les uns aux autres de philosophie, d'anglais, d'algèbre et de russe. Et lui avait choisi les cours de russe, donc il ne savait pas vraiment le russe, il n'en avait pas. Mais il avait poussé sa fille à faire du russe dans les lycées de Lille. Elle a fait la grecque de russe. Elle a traduit déjà du Alexandre Pushkin dans les éditions complètes de Pushkin. On peut voir cette traduction. Et Toulouse nous a aidés dans cette rencontre. Avec aussi, il faut le dire, l'amitié pour le sculpteur polonais Auguste Zamoyski, dont la femme Hélène Zamoyska, que je connaissais depuis longtemps, m'avait appelé comme assistant à Toulouse. Et ce Zamoyski représentait à lui tout seul le côté chevaleresque extraordinaire de la Pologne. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'a donné une magnifique statue en bronze qui représente la résurrection. Et par lui, j'ai complété ma connaissance de la Pologne, où j'étais déjà allé en venant de Moscou. J'avais beaucoup aimé le théâtre polonais. Un acteur qui s'appelait Jurek, un collègue, un jeune camarade de Moscou qui était Bobrovski, l'atmosphère polonaise m'avait littéralement séduit en sortant de Russie. Et avec Zamoyski, je l'ai retrouvé. Donc Toulouse a joué aussi un très grand rôle. C'est une très belle ville.
Merci beaucoup Georges Niva. Demain, nous parlerons de Solzhenitsyn et de votre vie parmi les dissidents. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Georges Niva, à la réalisation Nathalie Battus, prise de son Corentin Bailly, chargée de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série d'Ulysse Manès, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.